les efforts de Turgot et Necker, vains, sur vingt. Turgot et Necker, mais aussi Calonne et Brienne, ces quatre ministres vont tenter, chacun à leur façon, de lutter contre le déficit chronique des finances du royaume. Turgot est un libéral, sa doctrine, opposée à ce que fut le colbertisme, va prendre le nom de turgotisme. Necker pratique au contraire une économie dirigiste. Les deux autres vont improviser. Les filles de Louis XV, tantes du nouveau roi Louis XVI, ont dit à celui-ci
« C'est Maurepas qu'il vous faut !»
Maurepas fait son retour à la cour et chasse Maupéou qui avait exilé le Parlement en 1771. Maurepas devient ministre d'État, chef du Conseil royal des finances. Il rappelle les parlements, qui vont faire parler d'eux. Leur seul objectif est de combattre le pouvoir royal. Le 24 août 1774, Maurepas fait entrer dans le bureau de Louis XVI Anne-Robert Turgot, qui en ressort contrôleur général des finances. Turgot est un magistrat, passionné d'économie, qui a été nommé en 1761 intendant du Limousin. Son action y a été fort remarquée. Il a supprimé la corvée due par les paysans pour la remplacer par une taxe répartie sur la population avec justice et égalité. De plus, il a autorisé la libre circulation des grains. Devenu ministre, fervent adepte de la physiocratie, Turgot va étendre la libre circulation des grains à tout le royaume, appliquant la théorie du « laisser-faire, laisser-passer ». Cette liberté de la circulation des marchandises permet, selon Turgot, de faire monter les prix, de créer la richesse favorisant l'augmentation de la production tout en remplissant les caisses de l'État. Le turgotisme se heurte à un violent tir de barrage, celui des fermiers généraux, des profiteurs de toutes sortes qui, se servant copieusement dans la manne des taxes menacées de suppression, craignent la ruine. Bien que Voltaire et Condorcet le défendent, Turgot va être victime de la cour, de la reine, des fermiers généraux et finalement du roi qui lui avait promis de le suivre dans toutes ses décisions. Turgot est renvoyé le 12 mai 1776. Dans l'une des lettres qu'il écrit au roi, il tente de le prévenir des conséquences de son attitude. « N'oubliez pas, sire, que c'est la faiblesse qui a mis la tête de Charles Ier sur le billot. »
Turgot le physiocrate. Turgot fait partie de ceux qu'on appelle les physiocrates. Le théoricien de la physiocratie, le docteur François Quesnay, était un protégé de Madame de Pompadour. Le roi Louis XV, qui l'appréciait et l'appelait « le penseur », l'avait installé au-dessus de ses appartements à Versailles. Pour les physiocrates, la terre est la première et unique source de richesse, et c'est l'agriculture qui multiplie ces richesses capables d'assurer le bonheur de la population. Les agriculteurs, seulement les propriétaires de leurs terres, les autres n'intéressent pas Turgot. Les agriculteurs, donc, constituent la seule classe productive. Tous ceux qui s'occupent du commerce, de l'industrie, composent une classe stérile. Cependant, observent les physiocrates, le commerce est indispensable, mais il ne doit subir aucune surveillance, aucune entrave, autrement dit, il ne doit être soumis à aucune taxe.
Non, le laisser-faire, laisser-passer ne peut rien produire de bon. Non, un ordre naturel harmonieux ne peut naître spontanément de la liberté accordée à tout, tous et n'importe quoi. Il est nécessaire de contrôler le commerce de près, comme le faisait Colbert, pour protéger les pauvres. C'est Jacques Necker qui l'affirme. Ce protestant, d'origine anglaise, mais établi à Genève, a fait fortune en spéculant sur la Compagnie des Indes. Il a pu créer sa banque en France. Sa femme reçoit dans son salon les grands philosophes et le pousse à mettre en œuvre ses théories. La chute de Turgot, le 12 mai 1776, tombe à point nommé. Necker va être appelé pour le remplacer, ou plutôt pour conseiller le nouveau contrôleur, Necker, protestant et étranger, ne pouvant prétendre au titre de contrôleur. La guerre d'Amérique vient de commencer. La guerre d'Amérique, c'est la guerre contre l'Angleterre. Il faut financer cette guerre. Mais comment ? Par l'impôt ? Necker ne s'y résout pas. L'impôt est impopulaire. Quelle solution alors ? L'emprunt. L'emprunt, c'est indolore, invisible, miraculeux. D'ailleurs, Mirabeau, l'ironiste du siècle, dira de Necker « Il a fait la guerre sans lever d'impôt, c'est un dieu. » Oui, mais l'emprunt, il faudra le rembourser. Ou plutôt les emprunts, car ils seront au nombre de 7, les derniers à 10% d'intérêt. Le trou de la dette publique va devenir un gouffre. Un philanthrope, Necker. Il fonde avec sa femme un hôpital, rue de Sèvres. Aujourd'hui, Necker enfant malade. Il abolit la torture préalable, celle qui est pratiquée pour faire avouer. Se préoccupe du sort des mendiants. Tout cela est fort bon pour sa popularité. Mais il faut regarder en face la situation des finances. Elle n'est pas brillante et le contraint à demander à tous les ministères de faire des économies. Il tente aussi de s'attaquer aux pensions versées aux courtisans. Par ailleurs, il imagine la création d'assemblées provinciales, ancêtres des conseils régionaux, et de municipalités élues qui répartiraient l'impôt de façon plus équitable. Ces projets de réforme menacent tant la ferme générale, les privilégiés, la reine, les princes, le parlement, les intendants, qu'il est renvoyé le 19 mai 1781. Auparavant, il a eu le temps de publier un petit livre qui s'est vendu en quelques semaines à 100 000 exemplaires. Le compte rendu au roi. Il y a présenté de façon avantageuse sa gestion des affaires du royaume, mais aussi il y a révélé les dépenses de la cour et le montant des pensions versées aux courtisans.